l'écoute de Radio France Internationale. Il est 3h à Paris, 4h30 à Téhéran.
Arthur Ponchelet.
À la une, élection présidentielle en Iran. Un peu plus d'un mois après la mort d'Ebrahim Raisi, les Iraniens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Vous l'entendrez, le scrutin est plus incertain que jamais. Nouvelle manifestation hier au Kenya, malgré le retrait de la loi de finances annoncée la veille par le président William Ruto. L'appel à la mobilisation a été maintenu. Dans ce journal également, on évoquera le dernier jour de campagne pour les élections législatives en France. Et puis aux États-Unis, Joe Biden et Donald Trump doivent s'affronter dans les toutes prochaines minutes. Le premier débat télévisé du scrutin présidentiel se tient à Atlanta, en Géorgie. Jour de vote ce vendredi en Iran, scrutin pour élire un nouveau président, un vote anticipé, organisé avant la date prévue, à cause de la mort du président Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. Une course à la présidence qui se resserre. Sur 6 candidats, il n'en reste plus que 4. 2 prétendants au poste se sont retirés ces dernières 24 heures, afin de favoriser les conservateurs, car Muriel Paradon, le scrutin s'annonce indécis.
Le maire de Téhéran, Alireza Zakani, a annoncé qu'il ne participerait plus à l'élection présidentielle. C'est le deuxième candidat à se retirer après Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi. Tous deux étaient loin dans les sondages, tous deux sont des conservateurs et ils espèrent que leurs voix se reporteront sur les candidats de leur camp les mieux placés, à savoir Mohamed Kalibaf, l'actuel président du Parlement, qui se présente à l'élection pour la 4e fois, et le radical Saïd Jalili, un autre habitué des scrutins présidentiels. Face à ces deux conservateurs, le réformateur Massoud Pezeshkian pourrait faire la différence. Il peut susciter de l'espoir auprès d'une partie de la population, car il a fait campagne pour améliorer les relations avec les pays occidentaux afin de lever les sanctions contre l'Iran et sortir du marasme économique. Tout dépendra aussi du taux de participation, qui était très faible lors des derniers scrutins. Rappelons aussi que le président en Iran a des pouvoirs limités. C'est le guide suprême Ali Khamenei qui dirige véritablement le pays.
Fin de campagne en Mauritanie. Les Mauritaniens votent pour élire un nouveau président ce samedi. En tout, 7 candidats sont sur la ligne de départ avec une possible seconde alternance démocratique depuis l'indépendance du pays ou la réélection du président sortant Mohamed Ould Razwani, candidat à sa propre succession. Au Kenya, le centre-ville de Nairobi a connu de nouvelles tensions hier, malgré le retrait de la loi de finances annoncée la veille par le président William Ruto. L'appel à la mobilisation a été maintenu. Ce texte suscite une vive contestation depuis 10 jours qui a culminé dans des manifestations historiques mardi, réprimées dans le sang. Hier, les jeunes sont venus exprimer leur défiance vis-à-vis du président Gaël Lalex.
Dans les rues du centre-ville, une centaine de manifestants bravent la police. Les yeux rougis par les gaz lacrymogènes, John s'est mobilisé car il ne pense pas que William Ruto retirera la loi de finances.
Il ne cherche qu'à nous calmer et après il fera ce qu'il voudra. Je ne lui donnerai pas cette chance. Il prend nos taxes, voyage avec, paie sa femme, celle du vice-président. Ruto démissionne, organise de nouvelles élections. Le peuple n'a-t-il pas le pouvoir? La jeunesse représente la majorité des Kenyans, 75%, c'est elle qui manifeste.
Drapeau du Kenya sur le dos, Shroda, étudiant en communication, demande plus que la démission du président. Selon lui, ce sont toutes les élites politiques qu'il faut changer.
Le bateau coule. Ils ont profité du silence sur nos parents pendant trop longtemps parce qu'ils les ont terrorisés. Ce qu'ils oublient, c'est que nous, on n'a pas peur. On les surveille de près. Notre président est un homme intelligent. Il sait ce qu'il fait et c'est un manipulateur. Tout cela est un jeu et c'est de nous qu'on se moque.
L'œil amusé, Kimundu, commerçant, regarde passer des groupes de jeunes. La violence de la répression de mardi l'a choqué, tout comme l'appareil sécuritaire déployé depuis dans les rues de Nairobi.
Où dans le monde avez-vous vu un pays déployer l'armée contre son propre peuple? L'armée n'a pas de gaz lacrymogène, de menottes, ils n'ont que des AK-47. Combien de personnes vont-ils encore tuer? Les jeunes ici préfèrent mourir sur leurs pieds que de vivre à genoux. J'aime cette jeunesse.
Hier encore, plusieurs arrestations ont eu lieu dans le centre de la capitale. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
À Bruxelles, c'est tard dans la soirée que les 27 se sont mis d'accord sur les postes clés de l'Union européenne. Après une ultime réunion des chefs d'État et de gouvernement, on connaît l'organigramme de l'UE. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, rempile pour un nouveau mandat. Le Portugais Antonio Costa devient lui président du Conseil européen. Et puis c'est l'Estonienne Kaja Kallas qui obtient le poste de chef de la diplomatie européenne. C'est justement à Bruxelles qu'Emmanuel Macron s'exprimait tout à l'heure au sujet des élections législatives en France. C'est le dernier jour de campagne officielle avant le premier tour dimanche. Le président français a dénoncé la parole désinhibée de ces derniers jours, le racisme ou l'antisémitisme. Dernière prise de parole en date donc du chef de l'État dans une campagne express qui se joue aussi sur les réseaux sociaux avec une publication qui a jeté le trouble ces derniers jours. Il s'agit d'un faux site promettant un versement de 100 euros aux électeurs en cas de vote en faveur de la majorité présidentielle dimanche prochain. Une manœuvre de déstabilisation décryptée par la cellule InfoVérif de RFI avec Olivier Four.
La fausse page web reprend en tout point la charte graphique du site internet d'ensemble. Même couleur, même mise en page, même typographie. Afin d'induire les utilisateurs en erreur, les auteurs ont pris soin d'utiliser un nom de domaine très proche de l'original, Ensemble 2024. Sous la bannière bleue de la coalition, on peut lire cette annonce trompeuse. Votez pour nos candidats et recevez la prime de Macron d'un montant de 100 euros. Le site détaille la marche à suivre et appelle les internautes à laisser leur numéro de sécurité sociale afin d'être identifiés. Les liens fonctionnent et renvoient vers le site officiel, ce qui ajoute à la confusion. Concernant la diffusion de l'Infox, elle apparaît dès mercredi sur X et sur Telegram, puis est reprise par un site de désinformation français qui mêle le vrai et le faux, site affilié à un certain John McDougan, propagandiste nord-américain, pro-Kremlin, installé à Moscou. La fausse page est relayée par des comptes pro-russes qui cumulent parfois plus de 700 000 abonnés, certains allant même jusqu'à chiffrer le coût d'une manœuvre électorale qui n'a jamais existé.
La campagne électorale bat son plein aussi aux États-Unis, où le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump vient de débuter. L'un est candidat à sa réélection, l'autre espère bien retrouver le bureau ovale de la Maison-Blanche. Et c'est à Atlanta, en Géorgie, que les deux hommes s'affrontent ce soir dans un débat télévisé. Une rencontre aux règles très strictes, pas de public, des échanges strictement minutés et surtout un micro systématiquement coupé pour le candidat dont ce n'est pas le tour de s'exprimer. On fera le bilan de ce nouvel épisode de la campagne présidentielle américaine dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, à San Diego, deux pandas doivent atterrir dans le zoo de cette ville de Californie. Ils viennent de Chine et c'est une première en 20 ans. Ce couple de pandas géants est parti de la province de Sichuan et il va parcourir 11 000 km avec une étape à Hong Kong. Yelena Tomic, il s'agit là d'un symbole fort, le signe d'un réchauffement diplomatique entre Washington et Pékin.
La diplomatie du panda est un formidable marqueur de la qualité des relations que la Chine entretient avec les pays hôtes. Lorsque Pékin prête des ursidés, c'est le signe que les relations sont bonnes et que la Chine souhaite les améliorer ou tisser des liens. À l'inverse, lorsque le partenariat est rompu sur initiative chinoise, cela signifie que les relations se sont détériorées. Entre la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, l'abattage de ballons espions chinois présumés dans le ciel américain ou la vague de sanctions américaines contre la Chine, quasiment plus aucun zoo américain n'accueillait de pandas suite à l'expiration des différents accords de prêt qui n'ont pas été renouvelés. La tradition remonte à 1972, lorsqu'en pleine guerre froide, le président Nixon a rendu visite à la Chine, ce qui a ouvert la voie à des décennies de pandamania aux États-Unis. Le zoo de San Diego figure parmi les premières institutions américaines à avoir coopéré avec la Chine dans le domaine de la recherche sur les pandas géants. Tout est prêt pour accueillir Yu Chuan et Xin Bao, qui resteront plusieurs semaine à l'abri des regards du public, le temps nécessaire pour s'acclimater à leur nouveau lieu de vie pour les 10 prochaines années.
Yelena Tomic du service international de RFI. Un mot de sport avant de refermer ce journal. On reste aux États-Unis en basket avec le deuxième round de la draft NBA ce vendredi. Avec un nom bien connu des fans de basket, Bronny James, 19 ans, 1m88, le fils de la superstar LeBron James, a été choisi par les Los Angeles Lakers. Lakers, le même club que son père. Cela pourrait donc être la première fois qu'un père et son fils jouent en même temps dans l'histoire de la NBA. C'est la fin de ce journal, il est 3h passées 10 minutes, ici à Paris. Restez à l'écoute de RFI.